Einstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Franck Nouchi, qui publie Le cerveau de Voltaire, un roman chez Flammarion. Hébergé chez le marquis de Villette, dans un hôtel particulier qui se trouve à l'angle de la rue de Beaune et du quai qui bientôt portera son nom, Voltaire est mourant. Ses dernières visites ont été pour l'Académie et son dictionnaire. « Notre langue est une gueuse fière », disait-il. « Il faut lui faire l'aumône malgré elle. » Voltaire meurt le 30 mai 1778, dans d'horribles souffrances. Le lendemain, il est autopsié par M. Tri, un chirurgien de la rue du Bac, assisté par l'apothicaire du quartier, M. Mitoire. Selon M. Tri, les reins et la vessie étaient épouvantablement infectés et perforés, semblables à du lard décomposé. Le cœur était très petit, le cerveau très gros. Pour son dérangement, M. Mitoire demanda à garder le cerveau. Quant à M. de Villette, il se réserva le cœur qu'il fit enfermer dans un étui d'argent doré. Jusqu'à présent, Franck Nouchi, on vous connaissait surtout comme journaliste, journaliste au Monde, ancien directeur des cahiers du cinéma, du Monde des livres et du Monde 2. Longtemps, on pouvait lire une chronique de vous à la page télévision, des programmes de télévision. Je connais d'ailleurs un certain nombre de personnes qui n'achetaient le Monde que pour lire cette chronique. Et puis tout d'un coup, patatras, plus rien. On ne trouve plus votre signature. Qu'est-ce que vous faites dans le Monde alors ?
De quoi je m'occupe aujourd'hui dans le Monde ? Je m'occupe de ce qu'on appelle le développement éditorial, c'est-à-dire qu'on m'a confié la gestion de la marque Le Monde, qui est une très très belle marque, et donc j'essaye d'accroître encore, autant que faire se peut, la notoriété de cette marque, à la fois en organisant des événements, à la fois en imaginant des publications qui sont faites pour partie ou complètement à partir des contenus du Monde. Voilà, c'est un très gros travail, mais qui est plus anonyme, puisqu'effectivement, je ne signe plus d'articles après en avoir signé pendant, 27 ans, je crois. J'ai un petit peu changé de métier, mais ça fait du bien aussi de changer de temps en temps et de passer de l'autre côté du miroir, d'une certaine façon, de ne plus être journaliste écrivant ou rédacteur en chef. Je l'ai été pendant plus de 15 ans. Mais un poste de direction et de s'occuper d'autre chose que du contenu même du journal, même si j'y suis encore évidemment très très attaché.
Ça ne vous manque pas ?
Si, ça commence à me manquer, ça commence à me démanger même. La période qu'on vient de vivre, cette longue période électorale et tout ce qu'on a pu emmagasiner comme manière de spectacle au fond, m'a donné à moult reprises envie de reprendre la plume et de chroniquer l'époque. Au fond, c'est ce que j'aime faire. Et y avait une matière formidable.
Mais est-ce que ce n'est pas ce manque qui vous a conduit, puisqu'on ne publiait pas vos articles, à écrire un livre ?
Non, alors il se trouve que j'ai commencé à écrire ce livre alors même que j'écrivais tous les jours ma chronique dans Le Monde. Et c'est justement un matin où je me suis mis devant le clavier de mon ordinateur pour essayer de trouver un sujet de chronique que brutalement m'est venue cette idée de roman. Ça s'est vraiment passé comme ça. Une idée, j'ai pensé à Voltaire, j'ai pensé à une conversation que j'avais eue la veille avec Philippe Solers, où à un moment, pendant mais peut-être 20 secondes, on avait évoqué tous les deux Voltaire, Et puis, vous savez comment ça se passe, on laisse ça dans un coin de son cerveau, un petit peu comme un trou de mémoire, mais là, c'était une information qui, en réalité, allait s'avérer capitale pour moi. Et le lendemain matin, au lieu d'écrire ma chronique, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire que j'ai commencé à bâtir une sorte de synopsis, si vous voulez. J'ai eu une idée et je l'ai retranscrite. Et puis ensuite...
C'est votre cerveau alors qui vous a sauvé la
oui,
mise.
Oui, mais je crois que le cerveau a des capacités insoupçonnées. Parfois, on pourrait en parler. Moi, j'ai une formation de médecin et j'ai fait pas mal de neurologie, de neurobiologie. Ça m'a toujours passionné, les histoires de cerveau. Et là, mon cerveau a fonctionné bizarrement. Je cherchais une idée de chronique sur l'actualité, puisque c'est mon métier. Et m'est venue cette histoire à propos de Voltaire. Donc, j'ai écrit quelques lignes, j'ai écrit ma chronique, je suis parti au journal, j'ai fait mon travail au journal. Et le soir, en rentrant, j'ai eu la curiosité, mais vraiment, je n'imaginais pas une seconde que ça pouvait donner lieu à un roman, à l'écriture d'un roman. Je l'ai relu et je me suis dit, mais au fond, c'est assez intéressant. Et j'ai continué à travailler sur cette espèce d'ébauche de synopsis, en me disant qu'il y avait peut-être matière à quelque chose. Donc j'ai fait ça, et dès le lendemain matin, j'ai appelé une éditrice, Teresa Crimisi, qui est une très chère amie, et je lui ai dit, voilà, j'ai quelque chose d'un peu fou à te dire, je voudrais que tu lises deux feuillets que je viens d'écrire, ça m'importerait beaucoup que tu me dises ce que tu en penses. Mmh. Ça, c'est le privilège aussi, immense privilège, d'être journaliste, de travailler dans un journal connu, puisque je l'ai vu le soir même, et je lui ai fait lire ces deux feuillets, et elle m'a dit, je ne sais pas si vous la connaissez, avec son accent italien merveilleux, elle m'a dit, mais écris tout de suite, je te demande d'écrire. Écrire, et fort de cet ordre, j'ai écrit.
Écrire sur Voltaire, c'est une façon pour vous de chroniquer l'époque ?
Oui, je me suis rendu compte qu'en imaginant cette histoire à propos de Voltaire, que je pourrais vous résumer tout à l'heure, c'était une manière pour moi à la fois de chroniquer notre époque et d'établir une sorte de va-et-vient entre l'époque des Lumières, qui est une époque qui m'a toujours fasciné, et l'époque d'aujourd'hui. Et j'avais trouvé le pont, en tout cas je me suis servi de ce pont, en l'occurrence Voltaire, en l'occurrence le cœur de Voltaire, qui, par un beau matin, avait disparu.
Voltaire, le dernier des écrivains heureux, selon Roland Barthes.
Oui.
Mais écrire sur lui, ça vous a rendu heureux ?
Oui, follement heureux. Absolument. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai été très heureux d'écrire ce roman. D'abord parce que pour moi, c'était la première fois que j'écrivais un roman. Et donc, j'avais lu beaucoup de textes dans lesquels un certain nombre d'écrivains décrivaient ce qui, à certains moments, pour eux en tout cas, avait été un immense bonheur. Ce bonheur d'inventer des personnages, ce bonheur d'inventer des histoires, ce bonheur finalement de vivre avec ces personnages, cette invention d'une double vie à laquelle, au fond, je ne croyais pas beaucoup. J'aimais beaucoup lire des textes là-dessus, mais je n'imaginais pas que cela fût possible. Et dès que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à ressentir ce bonheur-là, qui est un bonheur extrêmement particulier, que je sais que je ne retrouverai pas si d'aventure il m'était arrivé d'écrire un essai ou un document. L'écriture de la fiction, inventer des personnages, les faire vivre à ses côtés, à tel point que parfois c'est eux qui dictent le cours de l'histoire. Vous arrivez un matin, vous savez que vous avez envie d'écrire une page sur tel aspect de votre roman, et le personnage s'en empare et vous emmène ailleurs. Et vous vous laissez faire, c'est extrêmement agréable de se laisser porter comme ça par son personnage, qui d'une certaine façon vous dicte ce qui va arriver.
C'est donc plus facile de faire long tout un livre que de faire court une petite chronique.
Oui, en fait, oui. En fait, ça a été vraiment... Alors bon, je ne devrais pas dire ça parce que je devrais dire au contraire que j'ai énormément travaillé, que tout ça a été très compliqué, que j'ai beaucoup souffert en écrivant. En fait, pas du tout. J'ai pris un immense plaisir à le faire. Ça a été quelque chose d'assez libératoire pour moi. C'était une période un peu particulière de ma vie où... le fait comme ça de m'évader dans une autre histoire a été presque salvateur pour moi. Et j'ai passé de formidables moments à écrire comme ça derrière mon ordinateur. J'ai finalement choisi d'écrire sur mon ordinateur et non pas
À la main, à l'ancienne.
À l'ancienne, ça m'aurait peut-être plu
d'écrire
à l'ancienne.
Avec un stylo Montblanc.
Non, c'est un Dupont, mais c'est pas grave. Non, je l'ai fait sur mon ordinateur. Après tout, c'est un vieux compagnon, mon ordinateur. C'est un vieil ordinateur que j'ai depuis très longtemps. J'ai l'habitude de lui, je le connais bien.
Et réciproquement. Alors, on sait bien, Franck Nouchi, que la vie de Voltaire peut se lire comme un roman policier. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que sa mort aussi est un roman policier, en quelque sorte.
Et oui, puisque lorsqu'il est mort, vous avez lu quelques lignes de mon roman tout à l'heure, lorsqu'il est mort, donc Voltaire a été autopsié. Son cœur a été confié au marquis de Villette et après quelques petits rebondissements, son cœur est arrivé à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, où il est toujours d'ailleurs, on pourrait en reparler. Le problème, c'était son cerveau. Son cerveau, personne n'en voulait. Il était en mauvais état, on l'a dit. Et finalement, donc, c'est le pharmacien du coin, M. Mitoire, qui l'a récupéré et qui l'a transmis à ses descendants. Et les descendants, à intervalles réguliers, ont voulu confier cet organe noble, parmi les organes nobles, ont voulu le confier à la République, pensant que la République saurait mieux le conserver qu'eux-mêmes. Et donc à plusieurs reprises, après la mort de Voltaire, après la Révolution, après que Voltaire ait été transféré au Panthéon, les héritiers du pharmacien Mitoire ont voulu confier ce cerveau à des institutions représentatives de la République. Et là, à leur grand étonnement, on n'en voulait pas. Le cerveau de Voltaire était quelque chose d'absolument inacceptable. L'Académie française a même prétexté qu'elle n'avait pas de place pour le ranger.
C'était
donc
tout ou rien.
Pouvait le garder. C'était tout ou rien d'une certaine façon. Et donc il a fallu attendre le début, plus que le début d'ailleurs, 1927 je crois, du XXe siècle pour que la Comédie française finalement accepte de recueillir le cerveau de Voltaire. Et donc ce cerveau a été placé dans le socle de la statue de Voltaire par Houdon qui est dans le foyer de la Comédie française. Et il était là, bien tranquillement, depuis 1927. Énormément de documents en attestent. On est absolument sûr qu'il a été placé là. Et donc moi, quand j'ai commencé à écrire mon petit roman, j'ai eu envie d'aller visiter et le cœur et le cerveau de Voltaire. Donc je suis allé voir le cœur à la Bibliothèque nationale. Il était bien là. Et puis, je suis allé à la Comédie française.
Également avec un plâtre original de Houdon.
Absolument. Les deux sont conservés dans un plâtre original de Houdon. Et à la Comédie française, l'administratrice, la conservatrice, était extrêmement embêtée puisqu'elle m'a confié que le cerveau de Voltaire avait bel et bien disparu, ce qui coïncidait tout à fait exactement avec l'histoire que je projetais d'écrire puisque moi, j'avais imaginé que ce cerveau de Voltaire avait été volé. Et donc là, je me suis dit, c'est trop beau. La réalité dépasse la fiction, donc je vais écrire ce roman.
Est-ce qu'on est certain que le cerveau de Voltaire, qui se trouve donc depuis 1924 à la Comédie française, est bien le cerveau de Voltaire? Est-ce que c'est pas un faux?
Tout tend à prouver que c'est bien le cerveau de Voltaire. C'est-à-dire que c'est comme si on avait fait la traçabilité de ce cerveau, on a reconstitué son trajet avec une très grande précision. A priori, tout indique qu'il s'agissait bien du cerveau de Voltaire. Moi, dans mon livre, effectivement, et c'est le début du roman, on veut vérifier qu'il s'agit bel et bien du cerveau de Voltaire, qu'il n'y a pas eu échange à un moment donné dans l'histoire. Et donc, il est demandé à une jeune chercheuse de bien vouloir comparer les ADN du cœur de Voltaire, dont on est sûr qu'il a bel et bien été le cœur du grand homme, et l'ADN du cerveau. Et donc elle procède au début du livre à cette comparaison des deux ADN pour finir par conclure qu'il s'agit bien du cerveau de Voltaire et donc on est à la veille d'une exposition qui est consacrée à Voltaire et elle décide de ranger le cerveau dans un réfrigérateur qui est situé dans son laboratoire. Elle rentre se coucher, on est quasiment à la veille du début de cette exposition. Et donc, c'est le lendemain matin qu'elle va se rendre compte que le cerveau a disparu.
Voilà. Mais il y a bien similitude des ADN hein, sur ce
Absolument.
Plan-là. On est complètement rassuré. Alors cette jeune femme qui se livre à cette opération, c'est Clélia. Et elle a un assistant qui s'appelle Bruno et qui est complètement amoureux d'elle parce que, bien entendu, c'est un roman que vous avez écrit.
Absolument.
Mais Est-ce que cette histoire d'amour, c'est vraiment la question ?
Non, c'est pas la question. Non, c'est pas la question, mais j'ai voulu inventer le personnage de Clélia dans toute sa globalité. Ça m'intéressait de raconter cette jeune chercheuse, y compris dans sa dimension amoureuse, et donc je lui ai inventé un soupirant, en quelque sorte. Voilà. C'est un petit peu une fausse piste comme ça au début du roman, ça n'a aucune importance, mais simplement, il y a quelqu'un qui est amoureux d'elle et ça me plaisait de raconter cette histoire, tout simplement. Mmh.
Mais cette Clélia, et ça c'est un peu l'ironie de l'histoire, elle n'a pratiquement jamais rien lu de Voltaire, en tout cas pas Candide ni Zadig.
Non, la plupart des personnages d'ailleurs de ce roman vont découvrir Voltaire à la faveur de cette histoire. C'est une chose qui m'a intéressée, c'est-à-dire que non seulement Clélia, mais surtout, on en parlera tout à l'heure, le commissaire qui est chargé de l'enquête, le commissaire Marcel Attias, au fond, ils vont imaginer que la solution de cette énigme se trouve dans l'œuvre même de Voltaire, et donc ils vont entreprendre de lire Voltaire. Non pas de relire, mais de lire Voltaire. Et donc, ils vont découvrir tout au long de cette histoire à quel point Voltaire avait été un immense écrivain, un immense intellectuel, un intellectuel très engagé.
Et vraiment libre.
Et vraiment libre, absolument. Ils vont découvrir la liberté du bonhomme, ce qui va leur permettre de s'interroger aussi sur notre propre liberté aujourd'hui.
On va s'apercevoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucune figure qu'on puisse comparer à celle-ci.
Alors moi, c'est ce que je dis dans le livre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, on est frappé quand on compare l'œuvre de Voltaire avec l'œuvre des grands intellectuels, des grands penseurs, des grands écrivains d'aujourd'hui. On est frappé par une sorte de discordance comme ça entre les deux. Quand on regarde la qualité, le niveau, l'âpreté du débat public au temps des Lumières, entre évidemment Voltaire, Rousseau, Diderot, Kant, qui vous voulez, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que c'est intéressant de s'interroger sur ce qui se passe au fond. Pourquoi on en est arrivé là ? Moi, je ne veux pas du tout rentrer dans une réflexion théorique là-dessus. Je m'amuse au travers de cette histoire à semer comme ça quelques petits indices. Je me sers un tout petit peu d'un auteur qui compte beaucoup pour moi, qui est Guy Debord, et de ce qu'il a pu écrire sur la société du spectacle. Je pense que lorsqu'on interroge la société du spectacle, on comprend un certain nombre des choses qui se passent aujourd'hui. Voilà, mais je ne veux pas non plus paraître trop prétentieux et trop théorique. C'est juste comme ça des intuitions que je livre au lecteur au gré des pages.
C'est pas un nouveau Zadig que vous avez écrit.
Non, pas du tout, pas du tout. Je m'attends pas du tout. Non. J'ai voulu m'amuser, j'ai voulu faire sourire, j'ai voulu me prouver que j'étais capable d'écrire une histoire et d'aller au bout d'une histoire avec une véritable fin. Et j'ai voulu aussi dire un certain nombre de choses, et là on retrouve effectivement le côté journaliste, le côté chroniqueur. Je me sers beaucoup de ce que je vois, de ce que j'entends, des rencontres que j'ai pu faire tout au long de ma vie de journaliste. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens par bonheur. C'est un immense privilège. Je me sers comme ça un petit peu de leur travers, de leur petite manie. J'ai eu la chance, j'ai toujours la chance d'ailleurs, d'être une espèce de bénéficier d'un poste d'observateur extrêmement privilégié. Quand vous êtes au Monde, que vous écrivez tous les jours pendant des années et des années, vous avez cette possibilité, pour peu que vous en donniez un tout petit peu la peine, d'observer, de regarder, un petit peu comme un chercheur derrière son microscope. Et donc je les connais bien, moi, tous ces personnages puissants ou qui se veulent puissants, tous ces gens qui tissent des réseaux sans arrêt, tous ces gens qui se servent comme ça de la technique du renvoi d'ascenseur. Donc je les ai beaucoup observés, je les ai même beaucoup aimés, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont extrêmement sympathiques. Et je me suis dit que j'allais me servir de toutes ces annotations, de toutes ces observations, et que j'allais comme ça parsemer mon livre de ces notations, justement.
Mais un livre qui joue quand même profil bas en se présentant comme un roman policier.
Alors, vous dites profil bas, c'est curieux que vous disiez ça. Moi, je pense que le roman policier est un genre majeur de la littérature. J'adore le roman policier et je trouve que chez un certain nombre de grands auteurs de romans policiers, il y a là quelque chose d'essentiel sur le monde d'aujourd'hui. On comprend très bien le monde d'aujourd'hui en lisant un certain nombre de grands auteurs policiers. Je considère absolument pas que c'est un genre secondaire.
Non, je m'en veux beaucoup d'ailleurs.
Je vais même vous le dire, je m'en veux énormément lorsque j'ai eu la chance, le bonheur de diriger le monde des livres. Qui est un petit peu la vitrine du journal Le Monde, tous les jeudis, ce supplément majestueux comme ça qui parle de littérature. Je pense que pendant les quelques années où je l'ai dirigé, j'ai sous-traité, malheureusement, le genre policier, le genre d'espionnage aussi. Je pense que j'aurais dû y accorder une beaucoup plus grande importance. Mais c'est compliqué parce que le genre policier bénéficie comme ça d'une mauvaise réputation. Au fond, les gens ont du mal à avouer qu'ils aiment ça. Moi, je suis sûr que plein d'écrivains, que plein de critiques, presque en cachette, lisent sans arrêt des romans policiers et aiment un certain nombre de personnages comme ça, de romans policiers. Mais on n'en parle pas.
Loin de moi, Franck, l'idée de dévaloriser le roman policier. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'un roman policier, c'est un roman qui en cache un autre.
Très souvent, oui. Absolument, très souvent. Donc là, bon, le mien, c'est assez... D'abord, c'est un petit roman. Je ne prétends pas du tout... avoir écrit un véritable roman policier. Il y a une intrigue policière dans mon livre, mais quand vous prenez un certain nombre de grands romans policiers, par exemple, prenez les livres de Michael Connelly, par exemple, on parle beaucoup de lui en ce moment, derrière la trame policière qui est absolument remarquable, vous avez une peinture tout à fait formidable de la société américaine, de Los Angeles, de Las Vegas... Une peinture sociale, une peinture psychologique, et même mieux que ça, quand on prend un certain nombre des personnages récurrents, puisque dans l'œuvre de Connelly, il y en a au moins deux, mais il y en a un que moi je trouve tout à fait extraordinaire, qui est le policier, qui s'appelle Harry Bosch. Si vous le suivez de livre en livre, vous allez voir apparaître un très grand personnage de la littérature contemporaine. Mmh. On est bien au-delà du roman policier tel qu'on l'imagine... roman facile, etc. Même si c'est assez facile de lire du Connelly.
Alors voilà, vous et moi, nous parlons du roman policier. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La belle Clélia, qui a mis le cerveau de Voltaire dans son réfrigérateur, est bien obligée de constater que dans la nuit, il a été volé.
Oui.
Comment faire pour le retrouver?
Donc c'est l'affolement. Le cerveau de Voltaire a disparu. On fait appel à un des plus grands policiers français, le commissaire Marcel Attias, et on lui confie l'enquête. Mmh. On lui demande de retrouver au plus vite le cerveau de Voltaire. Au début, il se demande vraiment si on ne se fiche pas de lui, dans la mesure où lui est quand même habitué à résoudre les plus grandes affaires, les plus grandes énigmes, à retrouver des meurtriers. Puis il se pique au jeu, jusqu'au moment où arrive une lettre du voleur, qui dit que non seulement il a bel et bien volé le cerveau de Voltaire, mais il menace de cloner Voltaire, tout simplement. Mmh. Et il étaye cette volonté en affirmant que il est nécessaire de faire revenir Voltaire, qu'on ne peut plus vivre comme ça sans que Voltaire soit parmi nous.
Pourtant, donc, au départ, il ne voit pas véritablement la gravité de la situation.
Absolument pas. Non, au départ, Marcel Attias est assez tranquille, il se dit que c'est vraiment... Et puis là,
il
se dit que l'affaire peut-être est plus importante que ça. Et puis, il se demande si c'est possible ou pas un clonage de Voltaire, un clonage humain. Donc, il va rencontrer un certain nombre de spécialistes, il leur pose la question... Les spécialistes, au fond, sont assez tranquilles. Ils lui disent, mais non seulement c'est interdit, la morale le réprouve, l'éthique n'en veut pas. Et puis, techniquement, on n'a jamais réussi un clonage humain, donc c'est pas possible. Et puis, il a quand même un petit doute, Attias. Il se dit, mais après tout, si c'était possible. Et puis, surviennent un certain nombre d'événements qui tendent à montrer que ce voleur n'est pas un voleur comme les autres, que ce voleur, en particulier, semble posséder la technique du clonage et que le risque existe bel et bien. À ce moment-là, donc, les médias s'emparent de l'affaire. L'affaire devient publique, l'affaire devient une grande affaire. Il y a une affaire du cerveau de Voltaire, à tel point que Marcel Attias va se retrouver dans le bureau du président de la République lui-même, qui lui demande vraiment de tout faire pour retrouver le cerveau de Voltaire. Et là, l'affaire devient énorme. devient énorme, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut tout faire, et donc il va user d'un certain nombre de stratagèmes pour retrouver ce cerveau de Voltaire, il faut tout faire pour le retrouver, mais en plus, s'engage un débat sur la place de l'intellectuel en France aujourd'hui versus la place de l'intellectuel au temps des Lumières. Et donc Marcel Attias est au centre de cette affaire considérable qui le dépasse absolument complètement, et il imagine trouver la solution à l'intérieur de l'œuvre de Voltaire. Et là, je me suis bien amusé parce que ça me plaisait de prendre un flic comme ça, un grand flic, mais un flic, découvrant l'œuvre de Voltaire, découvrant l'affaire Calas, découvrant quel personnage... quel symbole de la liberté avait pu être Voltaire. Et c'est rigolo de voir finalement deux personnages aussi éloignés, Voltaire d'un côté, le commissaire Attias de l'autre, comment finalement, par-delà les siècles, par-delà l'histoire, ils en arrivent presque à dialoguer l'un avec l'autre.
Le président de la République avait lu Voltaire lui-même ?
Alors, lorsqu'il convoque Marcel Attias, il ne lui dit pas, mais il a conscience que Voltaire était un grand Français et qu'il importe absolument de retrouver son cerveau. Donc, le président de la République en question, c'est Nicolas Sarkozy. Mm-hmm. Peut-être qu'il se souvenait de la phrase de De Gaulle lorsque Jean-Paul Sartre avait été arrêté en 1968 et que De Gaulle avait dit « on n'embastille pas Voltaire ». Et donc, il prenait « je ne sais pas ». Il est assez sympathique avec le professeur, avec le commissaire Attias, Nicolas Sarkozy. Il le reçoit gentiment. Il parle de cinéma plutôt que de Voltaire, ce qui pourrait faire penser qu'il n'a pas vraiment lu l'œuvre de Voltaire. Ils ont une conversation assez agréable, tous les deux. J'ai pas campé un Sarkozy antipathique, en tout cas à ce moment-là du roman.
Mais pour mener la narration, vous avez joué double jeu. Finalement, puisque vous mêlez des personnages fictifs, ceux qu'on a rencontrés déjà, Clélia, son amoureux, Bruno, son patron, Grimbert, le commissaire Attias, et des personnages bien réels. Par exemple, le professeur et généticien Axel Kahn.
Oui, il y a un certain nombre de personnages réels qui apparaissent dans ce livre. Je n'en ai prévenu aucun. La plupart des personnages réels, des collègues du monde, les collègues du monde, ils apparaissent tous sous un faux nom, sauf ceux qui ont quitté le monde. Ouais. Mais ceux qui y sont
Pierre
toujours
apparaissent. Par exemple.
Voilà, Pierre Lepape, absolument.
Spécialiste de Voltaire.
Je le fais parler en fonction du livre magnifique qu'il a écrit d'ailleurs sur Voltaire, je vous le recommande. Michel Cageman aussi, qui était un de mes collègues du monde, mais qui n'est plus au monde. Donc, il y a un certain nombre de personnages réels qui apparaissent dans le livre, qui parfois en sont des personnages importants. Par exemple, Bernard-Henri Lévy, qui n'était absolument pas au courant que j'écrivais ce roman et que j'ai fait jouer, au fond, dans ce livre. Je lui ai fait jouer son propre rôle dans son appartement avec le commissaire Attias, puisque Bernard-Henri Lévy est mis en cause dans ce livre par le voleur du cerveau de Voltaire. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un double jeu entre la réalité et la fiction. Mais qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction? C'est un petit peu le jeu auquel j'invite les lecteurs dans ce livre. Je peux vous dire que quasiment tout ce qui est écrit dans ce livre est exact. Même si parfois ça vous paraît un petit peu extravagant, c'est pratiquement toujours exact. Finalement, la seule chose qui ne l'est pas ou qui ne le serait peut-être pas, c'est le fait que quelqu'un, quelque part, aujourd'hui, voudrait cloner Voltaire. Et allez savoir.
Il y a un autre personnage bien réel que vous avez d'ailleurs déjà cité et qui est un grand voltairien à qui on ne peut pas ne pas penser quand on travaille sur Voltaire, c'est Philippe Solers.
Alors Philippe Solers, je tenais absolument à ce qu'il apparaisse dans ce livre. C'est, comme vous l'avez dit fort justement, un grand voltairien, c'est un grand amoureux de la littérature. C'est un grand connaisseur de ces ponts comme ça que l'on peut dresser entre deux rives de deux siècles différents. Il connaît admirablement l'époque des Lumières et je trouve, moi, aujourd'hui, que c'est un des observateurs les plus affûtés, les plus caustiques de la société française d'aujourd'hui. Et donc je me suis servi de lui, je le connais bien, je le reconnais, je me suis servi de lui pour au fond être le témoin de de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui s'est passé hier. Et je crois que Soler, c'est une des rares personnes autorisées à le faire, au fond. Donc je le cite un petit peu comme ça, et je me sers aussi de lui pour introduire un tout petit peu cette société du spectacle dont parlait Debord, et que Soler, dans un certain nombre de ses écrits, a prolongé en inventant comme ça tout un tas de notions qui auraient, je l'espère, fait sourire Debord.
Dans une perspective plus directement romanesque, on imagine très bien une sorte d'intrigue entre Philippe Solers et Clélia.
À un moment, ils se retrouvent côte à côte dans un café tous les deux. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque je me rappelle très bien, lorsque j'écrivais ce passage, je me suis demandé ce qui allait arriver. Et au fond, ce qui est arrivé, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'elle a parlé à Philippe Solers, elle lui a posé un certain nombre de questions, il lui a répondu à propos de Voltaire, à propos de cette affaire qui l'intéressait beaucoup. Elle n'a pas osé aller plus loin, lui non plus n'a pas osé. Elle s'est levée, elle est partie en promettant à Philippe Solers de le retrouver, de le rappeler un jour prochain. On s'en tient là dans l'histoire, en tout cas. Quand je dis que c'était important pour moi de faire jouer Philippe Solers dans ce roman, c'est que réfléchissez, essayez de vous dire qui d'autre que lui pourrait jouer ce rôle de peintre au fond de la société d'aujourd'hui. Qui d'autre a cette mémoire-là de ce que furent les débats intellectuels au temps des Lumières, de ce que furent les débats intellectuels au début du XXe siècle, de ce qu'ils furent dans les années 60, 70. Il y en a d'autres, effectivement, mais il n'y a plus grand monde, au fond. Et quand je parle avec lui, quand je l'écoute, parce qu'il parle beaucoup, je me dis que voilà un des derniers grands témoins du grand débat intellectuel.
Il y a un autre personnage d'ailleurs dans ce livre qui joue un rôle très important, qui est une personne morale, c'est votre journal, Le Monde. Et on peut se demander en fin de compte si ce n'est pas un roman sur Le Monde que vous avez écrit, Franck Nouchi.
En tout cas, j'ai voulu mettre en scène mon journal, j'ai voulu utiliser un certain nombre de confrères et de consoeurs qui travaille à mes côtés tous les jours depuis des années et des années. Et j'ai voulu, au travers de petites notations comme ça, raconter ce qu'est Le Monde. Moi, j'ai une immense tendresse pour ce journal. C'est mon journal, vraiment, avec ses immenses qualités, avec ses défauts aussi, avec ses petits travers, avec ses coteries, avec ses petits réseaux. Ce journal, j'y tiens énormément et j'avais envie qu'il soit présent, tout simplement. Donc, que Le Monde soit présent et que Le Monde soit un acteur de cette histoire. Alors j'ai fait autre chose, c'est que j'ai mis Le Monde face à un journaliste américain qui joue un rôle très important dans ce livre, ce qui m'a permis d'opposer une certaine tradition de la presse française à une autre tradition de la presse américaine. Si vous le lisez, vous vous en rendrez compte. J'aime la presse, j'aime les journaux. Et je voulais que ça passe d'une manière ou d'une autre dans ce livre.
Le cerveau de Voltaire, le roman de Franck Nouchi, est publié chez Flammarion. Du jour au lendemain, Jean-Pierre Belger, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.